Bipède, bienvenue dans cette nouvelle émission de CG
What. Ouais. Putain, je suis approché un peu trop du micro, je pense, pardon.
Ça saturait comme un porc. Bon, je suis toujours le doc et je suis toujours accompagné de mon camarade...
Néo, toujours. Non, j'ai été absent à la précédente, donc voilà.
C'est vrai.
Mais cette fois, je suis de retour pour vous jouer
et
un mauvais tour.
Ah, ouais. Il va mieux.
Ouais, je risque de tousser peut-être, je m'en excuse, mais on verra.
Ouais, mais les algorithmes d'intelligence artificielle supprimeront totalement Tatou.
Putain. Le groupe ?
Comment ?
Tatou ?
Oui, c'est ça. Toutes les choses qu'elle disait. on attaque cette émission sur le jeu vidéo. On revient. Hop, cette fois-ci, sur le jeu vidéo, nous sommes dans les locaux de Ubisoft.
À nouveau, effectivement.
Et on les en remercie, d'ailleurs.
Une émission qui va faire partie d'un diptyque, finalement.
Diptyque.
Ça va faire partie d'une émission en deux parties, si on peut dire. Alors, bon, normalement, c'était la prochaine qui devait être la première. Mais bon, on s'est dit que finalement, l'ordre importait peu, c'est pas très grave. Et on va se concentrer sur la conception pur du jeu, c'est-à-dire que vous avez rien, vous êtes chez vous, vous êtes là, mais putain, mais je veux faire un jeu vidéo, moi. C'est hyper facile, non? Tout le monde fait ça aujourd'hui. En fait, vous allez voir que c'est pas si simple.
Bon.
Et donc, on a deux premiers invités cette semaine, on aura deux autres la semaine prochaine, qui font tous partie de ce qu'on appelle...
Pas la semaine prochaine, le mois prochain.
Le mois prochain, pour les auditeurs, évidemment. Et donc, tous ces quatre personnes font partie de ce qu'on appelle une core team, vous allez voir ça dans quelques minutes. Mais avant ça, et avant de présenter nos invités de renom, je fais ma petite page de pub.
Vas-y.
C'est ça, je te vois, tu me regardes et tu me dis parle-en, on attend que ça. Bon, on fait ça très vite. Vous savez que la meilleure manière de partager, de faire parler du podcast, c'est déjà donc de le partager, d'en parler sur les réseaux. On fait ça bénévolement, on n'est pas là pour la moula. Mais si vous avez de la moula et que vous savez pas quoi en faire, déjà, il y a de quoi, il y a du mécénat si vous voulez, hein, il y a un PayPal, il y a un Spreadshirt aussi, qui est vieux comme le monde, je pense que ce serait peut-être pas mal qu'on...
On va peut-être le poussiérer un petit peu.
Je pense qu'il a 6 ans dans les dents. Ouais. Et surtout, il y a un Patreon qui vous permet d'accéder à la deuxième partie de l'émission, qui s'appelle le CG Beers, qui est un dessert sur le gâteau de cette émission.
C'est une friandise.
Voilà. Et oui, il y a trois paliers, donc junior, middle et senior. Le junior est à 1€ par émission, le mid 2,50€ par émission et le senior à 4,17€. C'est la conversion dollar-euro qui fait ça. Et donc, plus vous montez dans le palier, plus vous avez accès à des choses comme un Discord pour les seniors notamment. Vous pouvez discuter avec nous demander des retours sur les émissions. Il y a tous les seniors du coup qui discutent aussi entre eux, qui s'échangent pas mal de choses. On a encore eu des courts-métrages qui ont été partagés et tout récemment, donc ça c'était vraiment très cool. Et voilà, ça vous donne les émissions une semaine en avance. Et puis surtout, ça nous soutient et c'est vraiment cool. Ça nous permet de continuer après ces 6 années bien entamées maintenant.
Ouais.
Donc, voilà.
Continuer tout ça. À savoir que vous deviendrez donc des patriopipèdes. Donc, votre QI montera à peu près. En général, on essaye que ça monte à peu près de 20%. Que vos compétences professionnelles également montent un petit peu de 20%. Et le salaire qui va avec. Voilà. Mais on ne vous garantit rien, bien entendu.
Bah non. Surtout en ce moment.
Alors par contre, en parlant de salaire, etc. Oui, juste une petite chose aussi, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Si vous êtes patriote depuis quelques temps, pensez à regarder si votre carte bleue est toujours valable, parce qu'on a des patriobipèdes qui sont toujours là et qui nous soutiennent et on les en remercie, on les embrasse, et etc. Mais les cartes bleues ont expiré, il y a eu un souci, un machin, et du coup, pouf, il n'y a plus rien qui sort. Donc, pensez juste à acheter un coup d'œil, à dire, tiens, ça fait longtemps, je crois que j'ai pas été prélevé, je vais regarder quand même, ou ne serait-ce que jeter un œil. Et puis, en parler autour de vous. Alors, pas de votre carte, hein, mais du pot. Voilà. Bon, sur ce, on attaque.
C'est parti, mon kiki.
C'est parti. Mais non, moi, c'est Doc.
c'est parti, mon Doc.
Est-ce que tu peux nous présenter les invités que nous avons autour de la table,
bien sûr,
s'il te plaît?
Donc, comme je le disais, nous avons deux invités de renom et qui font partie donc d'une... ce qu'on appelle une core team, donc la team centrale d'un jeu vidéo, en l'honneur et en la présence de donc Jean... Ça, ma phrase ne veut absolument rien dire. Mais vous allez voir que leurs noms, les uns derrière les autres, ne voudront rien dire non plus, puisque nous avons Jean-Christophe et Christophe. Donc Jean-Christophe Alessandri, bonsoir.
Bonsoir.
Et Christophe Pic, bonsoir.
Salut. Hello.
Donc tous les deux, vous allez nous parler comment est-ce qu'on fait naître finalement l'univers d'un jeu. quand je parle d'univers, on va parler aussi bien du level design, donc de construire le monde factuellement, de vraiment dire bah, là il y a une tour, là il y a une rivière, là il y a machin, là il y a bidule, là j'ai envie de mettre des plateformes, là j'ai envie de faire une course de voiture, je sais pas, n'importe quoi. Et Jean-Christophe, parce que là c'est plus la partie de Christophe Pic du coup, qui est beaucoup plus dans la conception. Comment tu pourrais dire, bah d'ailleurs, vas-y, bah, vous savez quoi, présentez-vous tous les deux,
c'est
en
parti,
fait.
Parti.
Je suis en train de faire leur présentation.
Voilà.
Mais c'est juste pour finir, juste, voilà, cette émission sera concentrée sur le world building, comme on pourrait dire en anglais, donc la construction d'un monde, aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue conceptuel et technique pour un jeu vidéo. Voilà.
Waouh, ça c'est bien.
J'y sais, je vais te laisser te présenter en premier.
Bah écoute,
tu as plus d'expérience, c'est pour ça.
Jean-Christophe.
Non, t'es pas plus. Ah, tu
ne sais plus.
Oui, on est deux vieux.
Je m'appelle Jean-Christophe Alessandri, je suis directeur artistique ici au studio de Montpellier, Ubisoft Montpellier. Et je travaille depuis un certain nombre d'années avec monsieur Christophe Pic, ici présent. Voilà, ça fait à peu près un peu plus de 30 ans que je travaille dans l'industrie.
Voilà. T'as commencé en tant que directeur artistique direct ?
Ah non. J'ai commencé en tant que passionné lycéen. J'ai eu la chance de faire un jeu qui a été édité. Donc là, j'étais encore au lycée. Et puis après, de fil en aiguille, j'étais embauché dans une puis deux sociétés de jeux vidéo. Et puis enfin, j'ai atterri à Ubisoft. Et voilà, et ça fait un certain nombre d'années maintenant.
Vas-y, une date, combien d'années
Combien d'années en tout à Ubisoft?
À Ubi,
alors c'était en deux temps, puisque j'ai dû arriver en 95 à Ubi, je crois, et que j'ai quitté en 99, d'ailleurs, avec Christophe Pic.
Un
complice, voilà. Et d'autres collègues pour fonder notre propre studio qui s'appelait TWAC. On a développé un jeu pendant quelques années pour Microsoft. Et ensuite, en 2003, je crois.
En 2004.
On a été racheté par Ubisoft. Et donc, on est revenu à Ubisoft. Donc,
ah oui, le studio a été racheté, c'est pas vous.
Non. Enfin, nous, par la même occasion.
Vous étiez dans le package, pas extension.
Et donc, depuis 2004, donc ça fait déjà 20 ans, plus les années d'avant. Donc, je sais pas, ça doit être 25 ans chez Ubisoft, quoi.
Quand même. Et Christophe, même parcours, du coup ?
Je suis pillé aussi longtemps. Ouais, moi, moins longtemps quand même. Je suis arrivé en 97, 2 ans après, t'imagines.
Deux ans après à Ubisoft.
Donc moi, juste pour vous présenter, je suis responsable du level design et du world, mais bon, on va un peu préciser. Mm-hmm. C'est un peu vaste comme terme. Et donc moi, je suis arrivé en 97. Je suis arrivé sur Rayman 2, en fait, à Ubi. Donc après, forcément, on a eu le même parcours parce qu'on a fondé notre boîte et tout ça.
Avec Jean-Christophe.
Ouais, avec JC, ce dont Jean-Christophe parlait. Et donc sur Rayman 2, et moi, j'ai commencé comme graphiste, en fait. J'ai pas du tout de formation artistique, tout ça, mais j'ai commencé comme graphiste. À l'époque, Ubi, c'était Ubi Pictures, et c'était vraiment un studio qui était principalement un studio d'artistes et de graphistes. Et les parties plus gameplay, à part les 3C, enfin les contrôles du personnage, tout ça qui était fait en partie ici, pas mal de la plus grande partie c'était fait à Paris, en fait. Voilà.
Des assets, en fait, les
assets, mais surtout le level design.
Les
gameplay elements, les ennemis, tout ça. Il y a une partie qui était faite ici avec quelques programmeurs ici, mais c'était principalement des artistes sur Montpellier, et la direction créative. Il y avait Michel, qui était Michel Ancel, qui était ici et qui...
Oui, parce que quand tu dis graphiste, finalement, ça veut tout et rien dire, c'est un peu vague.
Ouais, mais peut-être. Alors,
à l'époque, ça englobait quoi ?
Ouais, à l'époque, on faisait pas mal de trucs quand même. Moi, j'ai bossé en gros sur de la modélisation de personnages, modélisation de décors, et sur les d'éléments de jeu, en fait. Mmh. Et je faisais la modélisation et les textures. Je faisais pas les textures sur les décors. Ça, c'était JC qui était... mettre en la matière.
Et pas l'air très enjoué.
C'était
plus simple, c'était en low poly et tout, donc on faisait les textures sur les persos, tu faisais le rigging,
tu faisais beaucoup de choses, en fait. Si tu veux, les métiers étaient moins splittés qu'aujourd'hui, beaucoup moins spécialisés, et donc effectivement on était assez polyvalents. Tu pouvais construire voilà, comme a dit Christophe, faire un personnage, travailler sur un décor, des textures, construire un prototype de map, etc. etc. Donc,
Et vous avez fait des études pour ça? Il y avait des écoles? Enfin, c'est pas non plus l'âge de pierre, mais...
pas loin. Alors, moi carrément pas en fait. Hein. C'était, il y avait pas d'école.
Ouais. Donc et vous avez appris comment?
Sur le tas, en faisant.
Putain.
Ouais.
Mais avec vos machines à vous ou entre.
Bah, je pense qu'on a peut-être une histoire, des commencements un peu parallèles quoi. Moi j'ai commencé chez moi avec un Atari ST et un logiciel qui s'appelait Degas Elite, je crois. Donc au pixel, etc. Degas Elite, c'était un logiciel pour dessiner sur Atari ST, mm-hmm. et puis après Amiga, Deluxe Paint, etc. Donc en fait, toujours en étant passionné, on apprend soi-même, et puis à l'époque, il n'y a pas forcément de tuto sur YouTube.
Puisque YouTube n'existait pas.
Puisque Internet n'existe pas. Simplement, et donc tu apprends en regardant d'autres jeux. Et moi, pour ma part, j'ai beaucoup appris en regardant les magazines, en fait, les magazines de l'époque, donc, Tilt notamment, et en regardant les photos d'écran et en essayant de recopier au pixel ce que je voyais, quoi, tout simplement.
Incroyable. Est-ce que je peux donner une petite anecdote quand même? C'est pas mal, j'ai une bonne anecdote là-dessus, parce que, comme j'y sais, alors moi, je faisais pas du jeu avant, mais pareil, j'avais un Atari, tout ça, bon, toute la culture arcade, on a traîné dans les salles d'arcade et compagnie. Et moi, j'étais plus dans le milieu de la démo, les démo makers, en fait.
Oh, putain, ok.
Voilà, donc, je faisais du graph, hein. Donc, il y a toute une scène à l'international, enfin, pas mal européenne quand même. Donc, on faisait des coding parties, des démo parties. On se retrouvait pour 3 jours un peu partout en France ou à l'étranger.
On en avait parlé dans l'émission de Mercenaries.
Ah oui, oui, je m'en souviens pas.
Oui, puisque notre invité.
Des démos, tu veux dire?
Oui, des démos. Notre invité Benjamin était démo maker également.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Ben moi, là, j'ai pas mal appris forcément parce qu'il y a le côté team hein, quand même. Il y avait des codeurs, des musiciens, tout ça. Il fallait s'entendre. On avait des productions, on faisait des méga démos et tout. Donc il y avait un peu de level design dedans et tout déjà. Et donc pour revenir sur l'anecdote, la fameuse, c'est que quand je suis arrivé à Ubi, JC a fait une soirée chez lui. et on a discuté pour la première fois, je pense, à ce moment-là. J'étais arrivé depuis quelques jours. Et donc, JC m'a gentiment demandé mon parcours. Et tu ne te souviens pas?
Non. Non, mais c'est vrai, bah, enfin.
Et en fait.
J'attends la suite avec impatience.
Me dis pas maintenant, c'est pas de l'acheter. Non, et en gros, c'était rigolo parce que. Moi, JC m'a parlé de son parcours, ce que je connaissais pas. Et il m'a dit, mais je travaillais sur Préhistorique. Et là, moi, d'un coup, ça a fait, c'était un jeu que j'adorais visuellement, en tout cas. Et là, ben, j'avais quand même l'artiste avec moi.
Incroyable.
À côté.
Petit côté fanboy.
Voilà. Et je lui ai dit, écoute, c'est fou. Je copiais sur Tilt. J'ai travaillé sur un jeu qui s'appelait Samurai Quest avec des anciens potes démo makers. On faisait ça quand j'avais 15 ans à peu près. Et donc, il y avait des rochers sur une des maps. Et je kiffais trop les rochers que j'avais fait. Et les nuages étaient excellents. Mais vraiment. Hein. Et alors, j'ai commencé à pomper au pixel. Et là, JC, il me fait bah, moi, je faisais pareil avec Wonder Boy.
Et ben voilà. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça.
C'était mortel.
Ouais, à l'époque, de toute façon, les maîtres, c'était les japonais, c'était les japonais dans les jeux d'arcade, Capcom tout en haut de la pyramide, et puis après les autres, etc. Et ça, c'était vraiment.
T'as vu, pour finir sur la démo scene vite fait, et après on revient au vrai sujet, il y a Alex Pidot qui va faire un film là-dessus, qui s'appelle Démo. Il a fait un financement participatif qui a eu un gros succès. Okay. Là. Et ouais, ça va pas tarder à sortir. Je crois qu'il en a pour 3 ou 4 mois de tournage. Il veut faire un truc très, très, très sérieux et qui parle profondément de qu'est-ce que c'était que la démo scene, comment les mecs faisaient, etc. Voilà,
il y en a plein, des anciens de la scène démo. D'ailleurs.
Et puis, je pense en connu, tu avais les Beatman Brothers, par exemple. Brothers, enfin, des stars de l'époque. Ah, ouais, complètement.
Parce que finalement, c'est le début du temps réel. Est-ce qu'on peut dire ça? La démo scene, c'est un peu le début de la 3D, mais aussi du temps réel.
Ah non, moi, c'était même pas. Enfin, il y avait quand même de la 3D, mais.
Ouais.
Tu vois, c'était sur des bécanes. Moi, j'ai commencé sur Atari. Je ne sais pas si on a vu sur Amstrad peut-être la scène et tout ça. Donc, il y avait un peu 3D, mais bon, c'était pas Amiga, ça. À l'époque, les gros trucs incroyables, c'était l'overscan, les scrolls parallaxes. Enfin,
des trucs en 3D.
En 3D. Et là, quand tu avais de la 3D, mais tu voyais une pauvre primitive qui tournait, tu étais...
Oh ah ouais, c'est pareil. Moi, j'étais fasciné par ça. Et je me souviens, j'avais un pote. Fou, ouais. Alors, moi, ce n'est pas un milieu que j'ai fréquenté, mais j'avais des potes qui étaient passionnés, qui, des fois, m'amenaient des disquettes. Et on était là, la nouvelle compile de démos sur Atari ST, machin. On était comme des fous. Je savais pas que mon ordinateur pouvait faire ça.
Les programmeurs, c'était des sacrés tronches. Hein. Puis les mecs, ils ont fini soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, quoi, à la NASA. Quoi. Donc, c'est vrai, en plus,
il fallait programmer le moindre truc. Enfin,
c'était
les constructeurs comme Atari, je pense qu'ils captaient même pas ce que faisaient les gars. Ils savaient pas que leur machine pouvait cracher. C'est ça,
exactement ça.
Et en fait, dans les démos parties, tu avais des boîtes de jeux qui venaient recruter, en fait. Les mecs, ils venaient, ils traînaient dans les Cimaris, notamment, tout ça. Je me souviens de ça à Paris, à la Sanom, et les mecs, ils venaient recruter les programmeurs. Ils savaient qu'il y avait des sacrés brutes qui étaient dans le coin. Donc, pour répondre à la question sur la formation, pareil, hein, comme je disais, la démo, quoi.
Sur le tas.
Les salles d'arcade et la scène démo. C'est voilà.
Et sur des magazines, quoi. Sur des magazines papier où il y avait.
Et après, quand on a commencé à travailler dans des sociétés, c'était en apprenant. Parce qu'en fait, on était aussi avec des gens, finalement, qui apprenaient eux aussi, quoi.
C'était le début du jeu vidéo.
C'était un médium super jeune. Et donc, tous les jours, t'avais des nouvelles choses à apprendre, une nouvelle technique, un jeu qui sortait. C'était vraiment, c'était des terres à défricher, quoi.
On parle beaucoup de cette période, puisque là, on est quoi? On est en fin 80, début 90? Peut-être un peu après encore?
Mi-90.
Ces années-là, souvent, elles sont nommées comme étant des années où tous les trois mois, il y a un nouveau truc effectivement qui arrive du Japon, qui arrive de je ne sais où, qui casse la gueule techniquement sur un aspect. Ça peut être du monde ouvert, ça peut être juste un modeling vachement poussé, ça peut être un genre peut-être nouveau qui débarque. Effectivement, tout le monde trouve des choses.
En tout cas,
c'est
sûr qu'on scrutait tout ce qui arrivait du Japon, quoi. C'était un peu le fantasme.
Puis, il y avait eu Another World, non,
Eric
Chahi. Qui est
arrivé à peu près à cette époque-là, qu'il avait fait tout seul. Il faut qu'on arrive à l'avoir, Eric Chahi.
J'y travaille,
Je rêve de l'avoir.
Il est ici, il est à Montpellier.
On
va essayer.
C'était sûr que c'était une claque. Hein.
Visuellement. Bref, arrêtons de parler de préhistoire.
Oui, c'est ça. On en est loin de tout ça maintenant. Alors aujourd'hui, faisons un petit sommaire de l'émission qui va arriver. C'est où commence votre travail et où est-ce qu'il se termine concrètement? Si on devait vraiment trouver un point de démarrage et un point de fin, ce serait lequel pour vous deux, par exemple?
Bonne question.
La course.
Je dirais, si on parle de la vie, du développement d'un jeu vidéo, ça, on parle de la conception, début de la conception, jusqu'à sa sortie.
Donc vraiment, surtout le jeu. Vous avez beau faire partie de la team qui génère, met la graine de départ, vous êtes là quand même jusqu'au bout.
Et en ce qui me concerne, par exemple, tu vois, je peux commencer à travailler effectivement dès le début sur des références, des recherches, etc. Enfin, vraiment, on parle de la petite graine, comme tu dis, et jusqu'à la fin, qui peut être travailler sur sur un presskit, tu vois, sur du matériel de com, sur la jaquette, c'est le packaging du jeu.
Ça va au-delà de la conception du jeu.
Alors que le jeu est fini, ou il est en debug, on va dire, mais tu continues, voilà. Donc ça, c'est le spectre est assez large, quoi. Ouais.
C'est courant que le directeur artistique couvre tout ça, ou est-ce que souvent le marketing quand même plus?
Alors c'est en ce qui concerne le marketing a sa propre équipe, ses responsables, ses artistes, etc. Ce que je peux faire moi, c'est soit préparer en amont des assets dont ils ont besoin, voire aider à les produire, travailler avec d'autres artistes, etc. Ou donner des inputs, par exemple, sur telle ou telle chose, puisque je suis censé être aussi un peu le garant, si tu veux, de l'esthétique la charte graphique du jeu. Donc, je peux les guider là-dessus. Mais c'est eux sont entièrement responsables. Enfin, je parle du marketing, en l'occurrence.
Qu'est-ce qu'on montre sur la jaquette pour pas Ouais. Soit spoiler le jeu ou garder un peu de suspense, ou, alors, mais en même temps avoir du mystère. Ou
je ouais, pas, à mon voilà. niveau, c'est plus, tu vois, les ingrédients principaux, qu'est-ce ouais. qui va refléter, est-ce que le personnage est fidèle au personnage du jeu. Enfin, de toute façon, en général, on donne nos assets. Hein, donc après, eux font vraiment leur travail, c'est leur spécialité. Voilà.
Et toi, Chris?
Ben, c'est à peu près, en tout cas sur la période de conception, c'est à peu près similaire. Hein. Moi, ça couvre aussi tout le spectre jusqu'à la sortie du jeu. En conception, ben, c'est le travail sur les fondations du jeu, les renforcer, chercher des références et aussi partager les mêmes références, qu'il y a un alignement dans l'équipe, voilà, que tout le monde s'approprie un peu la vision. Et à la fin... pour ma part, c'est vraiment tout le travail sur les réglages, la balance du jeu, aller jusqu'au bout. On fait des playtests le plus tardivement possible pour améliorer la qualité du jeu, améliorer son flow, son accessibilité.
Quand tu parles de balance, c'est par exemple balance au niveau des combats ou balance au niveau de visuel ou
Oui, d'ailleurs, c'est un anglicisme, mais ça veut dire équilibrage.
Ouais, l'équilibrage.
Pour que les gens comprennent
ce que balance. Oui, c'est par exemple sur les challenges, tu vois, identifier s'il y a des pics de difficulté, si des joueurs ont des problèmes à comprendre certaines situations, s'il y a des problèmes d'accessibilité, donc travailler sur tous ces points pour enlever le maximum de friction pour que y a le meilleur flow possible dans le jeu. Tu vois, affiner les... Plus tu avances, moins tu peux bouger forcément, mais taper les potards sur le rythme, tout ça, tu vois, ajuster tout ça.
Et on va mettre
ça,
un peu de jaune là-bas pour attirer.
c'est tout ça, en fait. Il y a tellement de choses, en fait. C'est un médium qui laisse toute la liberté aux joueurs. Donc, il faut répondre à tout ça. Donc...
Et alors, comment vous faites? C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui vous apporte donc ce qu'il y aura dans l'émission suivante.
Exactement.
Une idée, un concept, une idée de monde, une idée de truc, et il vous dit voilà. Alors, comment ça se passe? Il vous expose le truc, et puis il dit vas-y, maintenant, fais le monde.
Fais de la magie.
Fais ta magie.
Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe.
Je fais le débile,
c'était une fausse question.
Comment que ça se passe?
On peut prendre... Il y a plein de cas concrets. Hein. Ouais, on prend l'histoire de Prince of Persia, il y avait une opportunité de faire un nouvel épisode du jeu et de refaire vivre un peu cette licence qui était un peu en sommeil. Donc, à ce moment-là, il y a une réflexion qui est faite. Il y a évidemment... au centre de tout ça, il y a le directeur créatif ou game director, Mounir, que vous allez recevoir, je pense, la semaine prochaine.
Exactement.
Qui est un peu le chef d'orchestre, un petit peu de ça, quoi. Et
c'est l'équivalent du réal.
Oui, puis qui amène une vision, en fait. Mm. En tout cas, qui a envie de la construire avec nous. Et donc,
c'est lui qui vient vous chercher, du coup, pour répondre à la question de Doc.
C'est pas forcément dans cet ordre-là. Je crois que peut-être que l'opportunité, elle est venue de Abdel, pour le coup.
D'accord.
Le producteur du jeu, il me semble. Et lui, en fait, c'est de toute façon, c'est un de ses jobs, c'est de réunir une équipe autour d'un projet. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a réunis, voilà. Il a fait en sorte qu'on se rencontre et qu'on travaille sur un projet en commun. Et du coup, de cette mise en commun d'idées, de choses, est née petit à petit une vision, quoi.
Mais toi, du coup, quand est-ce que tu prends tes crowbars et que t'y vas? Et pareil, Chris, quand est-ce que tu commences à vraiment mettre les mains dans le cambouis? Combien de temps finalement dure ce brainstorm qui reste encore dans la sphère des idées, et que d'un coup, quelles vont être les premières briques qui vont... si demain, tu devais donner un conseil, vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui a envie de commencer, et ouais. Par où, en fait, finalement, parce qu'on peut prendre ça par n'importe quel bout.
Oui, c'est vrai. Alors après, du coup, je pense que l'aspect échange entre nous est hyper important. Parce qu'en fait, finalement, avant de faire quelque chose de plus concret, que ce soit un sketch, c'était un artiste, ou un prototype, ou une modélisation, ou quoi que ce soit, il faut que les idées naissent quand même dans ta tête, quoi, avant. Et que tu aies des envies, en fait, et que toi, tu es une inspiration, en fait. Donc, tu cherches l'inspiration, et à ce moment-là, on se nourrit mutuellement avec Christophe, en échange, on discute avec Mounir, avec tout le monde, en fait.
C'est recherche de rêve.
C'est peut-être recherche de rêve, c'est jouer à des jeux, c'est aussi se dire, ah bah tiens, peut-être que ce jeu-là, cette proposition-là, peut fonctionner sous cet angle-là. Là, en l'occurrence, sur Prince of Persia, bah, il y a très vite est arrivée l'idée du Metroidvania. Et à ce moment-là, ça fixe un cadre. Ça, tu dis, ok, ça c'est un cadre dans lequel tu peux commencer à créer, inventer des choses, quoi.
Parce que là, c'était une des questions qui arrivait après. C'était est-ce que finalement il y a des choses comme le genre, comme un texte où j'avais mis quoi, ou une rêve visuelle effectivement, qui va venir figer tout de suite les choses. Au cinéma, j'ai l'impression que c'est un peu plus large. Il y a un scénar, on va dire, ou en tout cas au moins un pitch. Et puis, allez, quelques rêves visuels, effectivement, et un mood board, on va dire. Mais ça reste encore relativement ouvert. Même souvent, on dit que les films, ils ressemblent plus du tout à l'idée du film de départ. Mmh. Dans le JV, j'ai l'impression que quand même, il y a très vite un genre qui va venir s'installer, ou en tout cas un truc qui va venir un peu solidifier les bases.
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, si on parle d'expérience du joueur, quoi. Donc c'est surtout l'expérience qu'on veut donner. Donc ça peut être relié à la DA, à l'histoire, aux mécaniques du jeu, à la structure du jeu. Mais le but, c'est quelle expérience on veut délivrer, quoi. Et par rapport à ce que disait JC, alors moi sur Prince of Persia, je suis pas arrivé au tout début, donc il y a des choses qui étaient déjà posées, mais en l'occurrence quand il y a plein de configurations, hein, je pense qu'on a vécu tous les deux plein de configurations de genèse de projet en tout cas, mais quand il y a une graine qui est par exemple amenée par un directeur créatif, et ben le but c'est ben pour donner une image, la faire germer ensemble, la faire pousser ensemble et donc se l'approprier. Donc tout ce travail de partage de références, parce qu'on a chacun nos références tout, et on les relie à cette proposition là, voilà, on va jouer à des jeux ensemble, on va lire des trucs qu'on s'échange et tout ça, et au fur et à mesure voilà, on s'approprie ça et ça devient notre création
en fait. Et tes premiers trucs du coup, c'est quoi les premiers trucs concrets que tu vas fabriquer, ça va être quoi? Une fois que vous avez mis en commun vos
rêves. Tu travailles sur tes fondations. Donc, selon le jeu, il faut identifier ce qu'on va avoir à prouver, en fait, hein, voilà, à démontrer. Donc, cette fameuse phase, tu disais combien de temps on se laisse, c'est la phase de conception. Et on se dit, pour délivrer l'expérience qu'on veut délivrer, on a besoin de démontrer ça. Et il faut qu'on démontre que ça marche. Voilà. Telle mécanique de jeu, ou telle façon de raconter une histoire, ou telle direction artistique, et ainsi de suite. Et ça, on va le démontrer dans la phase de conception. Le but, c'est des proof of concept. Hein. Il faut qu'on on dise, ça y est, maintenant, on sait que ça marche. Et selon les parties, pour être sûr que ça marche, il faut l'exposer. C'est-à-dire qu'il faut le confronter à un public.
Mais le proof of concept, c'est pas surtout pour le game design. Enfin, je veux dire, pour les mécaniques de jeu, les sensations, non, ça peut être aussi pour l'art, enfin pour le building de l'univers.
Pour le building de l'univers, voilà.
Comment dire, construction.
Effectivement, tout ce qui est mécanique de jeu, tout ça, ça effectivement, le proof concept ou la structure du jeu, comment ça va s'ouvrir, tout ça, voilà. Il faut arriver à le démontrer. Après, sur la partie effectivement world building, c'est-à-dire que nous on va développer, si ça dépend de quoi on part aussi, hein, si on part de rien ou.
Dans l'occurrence, on parle de quelque chose qui est hyper référencé, ouais, parce que
dans l'exemple
de Prince of Persia, c'est une licence très connue. Enfin, elle a déjà un ADN, elle est codifiée. Donc,
oui, je te coupe, mais c'est pas un univers complètement fantasmagorique. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est basé justement, Prince of Persia, donc c'est la Perse.
C'est comme si tu devais finalement improviser sur un thème qu'on t'a donné. Tu vois, et en essayant de dire, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau à partir de ces ingrédients-là. Ces ingrédients-là, ils sont imposés. Tu vois, on t'a filé tel instrument, tel truc, maintenant débrouille-toi. Et essaye d'amener quelque chose de neuf, de ta propre vision, ta propre interprétation de Prince of Persia, quoi.
Tout en respectant l'héritage.
Et sans jamais trahir, évidemment, en étant dans la continuité, si tu veux, naturelle de l'histoire de Prince of Persia. Voilà.
Et ça, que ce soit pour un jeu comme ça qui est déjà dans un univers, ou un remake, ou une nouvelle licence, finalement, ça finit par se traduire forcément par des crowbars à un moment donné, ou est-ce que c'est plus, par exemple, typiquement, si on va vraiment dans ta fabrication pure, tu vas plutôt avoir tendance à avoir des esquisses, des grands. Tiens, est-ce qu'il faut te voir comme un peintre qui lance ses pinceaux contre l'étoile?
Maudit, et, un peintre maudit, ouais.
Ou est-ce que, tu vois, et puis pareil pour Chris, est-ce que tu vas direct dans un moteur à proprement parler de jeux vidéo et tu commences à tout de suite mettre des plateformes, à faire sauter des personnages, à faire des montagnes? Est-ce que tu fais un monde entier et après tu vas prendre un perso et tu t'amuses dedans, ou est-ce que tu fais plutôt des petits blocs et que tu fais des Lego et tu t'amuses, quoi?
Bah, en fait,
tu t'amuses.
Toujours là, si je prends l'exemple, toi, dans le cadre d'un Prince of Persia, t'as quand même une espèce de challenge aussi, tu vois. Il y a un côté un peu intimidant quand tu t'attaques à un truc qui a un sommet qui a marqué l'histoire du jeu vidéo.
On parle d'Eric Chahi, mais Jordan Mechner, c'est pas...
Voilà, c'est un des grands créateurs du jeu, donc faut quand même prendre le truc à bras le corps. Et moi, je pense qu'on fonctionne tous de façon différente pour aborder un truc comme ça. Moi, je sais que j'ai besoin de chauffe, quoi. J'ai besoin c'est-à-dire d'un tour de chauffe. J'ai besoin de me décoincer. Toi, okay. J'ai besoin d'explorer des trucs, de faire un peu n'importe quoi. Mais tu vois, pour ressentir un peu le truc, quoi.
Et tes outils, souvent... ce serait quoi, là, à ce moment-là?
Donc, en faisant que du jetable, quoi. En dessinant, en faisant un truc. Puis, en essayant de faire des connexions aussi entre, en me disant, j'aime tel film, telle histoire, telle musique, telle ambiance, tel style, et je pense que ça pourrait fitter.
Ok.
Tu vois, et que la connexion pourrait se faire, et que à travers cette connexion-là, peut-être que au final, je vais pouvoir amener quelque chose de neuf, mm-hmm. puisque c'est quand même le but, quoi. Voilà. Et donc, je sais pas, moi, je prends un exemple là, sur l'esthétique, on va dire globale. C'est vrai qu'on avait cette envie de moderniser aussi un peu. C'est marrant parce qu'à la fois, on allait chercher, attaquer des périodes de la Perse qui n'avaient jamais été abordées dans Prince of Persia, donc c'est l'Empire Achéménide, etc. La religion aussi qui est associée, etc. Et en même temps apporter quelque chose d'assez nouveau, en disant, tiens, on peut aller chercher des influences dans le street art.
Ah oui, oui.
Ou dans le comics. Où tu sais très bien, tu es très bien placé pour savoir, dans les animés.
Oui.
Voilà. Et donc, tu dis, ah tiens, on va tenter un mariage, en fait. Et ce mariage-là, si la sauce, elle prend, ça peut être hyper intéressant. Et en fait, on essaie de...
Dit comme ça, c'est pas évident.
Non.
C'est clair.
Mais ce qui est intéressant dans n'importe quel process créatif, c'est que chacun arrive avec son histoire, sa culture, et du coup, ses envies, quoi. Tu vois, et c'est finalement... c'est tout ce petit monde se rencontre et essaie de faire naître quelque chose. Voilà.
Et c'est là où après tu fais appel à tu vas faire des collages, faire de la peinture, tu vas faire un écrire un truc.
Et je vais aussi assez tôt travailler avec d'autres personnes.
Ouais.
Parce que c'est ça aussi qui est hyper important.
Ouais. Quelles autres personnes?
Là, alors, il y a une personne qui était très importante sur Prince of Persia qui s'appelle Omar Sabrouk, qui est un concept artiste très très talentueux. Et qui arrivait dès le début quasiment du projet, et à qui j'ai énormément travaillé, en fait. On a travaillé ensemble et on a construit un peu autour de l'esthétique du jeu en échangeant. Voilà. Et ça, c'est, en fait, évidemment, quand tu commences, tu sais pas où tu vas aller, quoi, tu vois, et tu vas chercher. Et finalement, c'est pas, tu dis, quand tu travailles avec des gens, tu dis, on va chercher ensemble, en fait.
Du coup, tu fais un dessin, tu vas chez toi pendant 3 jours, tu reviens, voilà, j'ai ça. C'est plus, vous faites des ping-pong comme ça avec chacun qui redessine sur le dessin de l'autre, c'est tout.
On essaie d'établir des thèmes et de s'inspirer mutuellement. En tout cas, je pense une des missions d'un directeur artistique, c'est d'inspirer les autres, quoi. Toi, d'essayer d'inspirer les autres, en tout cas. Et du coup, de faire en sorte que voilà, il y ait des choses qui se déclenchent. Et puis, du coup, toi, tu te nourris aussi de ce qu'a fait l'autre, l'artiste, un LD. Enfin, après, toi, c'est...
Oui, je suppose que Christophe s'est inspiré de ton travail.
Ouais,
pour
Christophe, on s'inspire mutuellement. C'est-à-dire Christophe va travailler sur une séquence de jeu, sur une topologie, sur une histoire qu'il va raconter. Parce qu'en fait, comme moi, on raconte des histoires, en fait.
Alors, vas-y, Christophe, comment tu racontes une histoire quand t'as rien finalement, et qu'il est en train de faire ses dessins, là, comme un enfant de 2 ans. Je dis ça en rigolant, évidemment, avec beaucoup d'amour.
Ça se peut partir de plein de choses, hein, mais j'ai de remonter un peu tout au début de la
page blanche.
La question, tout ça, mais non, je reviendrai sur ta question. C'est effectivement un travail intéressant, c'est là, dans le cadre de Prince of Persia, c'est de dire, il faut respecter l'œuvre et aussi se dire, c'est quoi qui vient. sa force, c'est quoi les éléments signature, et aussi où nous on veut l'emmener, et aussi qu'est-ce que les joueurs veulent retrouver, toi, de ces expériences-là, pas trahir ça aussi de l'expérience du jeu, quoi. Mmh. Donc du coup, c'est déjà pour ma part, c'est prendre le temps de jouer à tout ce qui a été fait sur tous les Prince of Persia, voilà, pour vraiment voilà ça tu te l'appropries aussi un peu, et commencer on disait à faire des collisions, quoi, des collisions qui peuvent générer en fait de nouvelles choses. Ça peut être de la collision sur certaines mécaniques de jeu qu'on va essayer de glisser dans Prince of Persia et qui vont être assez inattendues, ou un type de structure. Là, on a amené le Metroidvania dans Prince of Persia, et voilà, mais tout ça, ça l'amène autre part, quoi, pas la DA et tout ça aussi. Et après, je ne sais plus ce que je disais,
parce que en fait, l'idée c'était.
J'aime bien dire en tout cas.
L'idée, c'était t'as un game director qui arrive avec une vision, ouais. Et toi, du coup, comment tu commences à fabriquer des choses déjà?
Ouais, ouais, alors oui. Ah, t'as vu, tu me souvenais de la question. pas con, hein. T'es gardé là-dedans. Et non, c'était... en fait, effectivement, il y a un temps, un peu comme j'y sais, t'as un moment, voilà, le temps de prendre tout ça, le digérer, ce que je disais en jouant au précédent opus, toi, tu croises avec tes envies, tu croises avec tes références, à quoi t'as joué, et tout, tu commences... Et après, tu commences à faire des tests, et c'est autant macro que micro, quoi. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien avoir des réflexions, sur la structure, et me projeter sur qu'est-ce que ça va être, l'identité de chaque zone, comment on va pouvoir surprendre le joueur dans cette zone-là, comment elle va contraster par rapport à l'autre, parler de variété, de rythme, de difficulté, mais aussi aller taper, garder vraiment les mains dans le cambouis. Ça, je pense, c'est un peu propre à notre équipe, vraiment rester connecté, les mains dans le moteur, et tester des choses, quoi. Et ça vient forcément qu'il y a des programmeurs, parce que je ne sais pas programmer donc, tout seul, ça ne va pas très loin, mais à partir du moment tu commences à avoir un peu de matière pour faire jouer avec, et c'est vraiment important pour moi d'aller vraiment tester le micro, et même ouvrir même si je suis dans une période où je dois réfléchir à du plus macro, par exemple de la structure, on va dire la structure du jeu, et je prends quand même un moment chaque jour pour allumer le moteur et me reconnecter avec l'interactivité, en fait, parce que c'est ça le cœur du truc.
C'est un feeling, en fait.
Mais ouais, mais c'est manette vraiment un feeling, main. Mais ouais, il y a plein de trucs. C'est un peu comme le dessin, tu sais, t'as des choses qui te passent parfois, tu penses à, tu dessines un truc, et hop, ça te fait venir l'idée, ou ça te fait venir une histoire, et tout ça. Et là, quand tu joues, c'est pareil, parfois tu bloques, tu trouves pas d'idée et tout, et juste tu te balades avec le perso, là, tu le manipules un peu, plop, et pop, il y a un truc qui pop.
Ouais, et après c'est et puis d'un
ouais,
coup hop,
et mais après c'est toujours idée. Des connexions bottom up top down, c'est vraiment tout le temps ça, et ça reste quand même assez longtemps. Et pendant ce travail là en fait de ping pong entre ces deux parties, et petit à petit tu commences à poser tes briques, tu poses tes fondations, tu commences à solidifier ta vision, quoi, et petit à petit tu resserres. Toute la période de conception, on est là pour tester des trucs, quoi. Donc on se plante et tout ça, forcément, quoi. Donc souvent je donne l'exemple de Mario Galaxy par exemple, qui est quand même un bon jeu, non?
C'est pas dégueu. Considéré comme étant pas dégueu, ouais, effectivement. Pas...
Et non, mais blague à part, c'est un excellent jeu, c'est clair. Mais ils ont 80%, par exemple, si je parle que du level design, des maps qui ont été créées, ils ont tout jarté, quoi. Donc, pour dire la matière, putain, qu'il faut sortir, tu vois, pour essorer et avoir les petites gouttes
substantifiques.
Garder le jus, ouais.
Non, mais c'est ça. Hein.
Le nectar.
Ça, je pense que c'est vrai.
Un bon jeu.
Dans plein de corps de métier.
Ouais, pas de secret, hein. Pas de secret, c'est sûr.
Tu produis beaucoup de choses, mais tu sais que tu vas en jeter beaucoup aussi.
Il faut l'accepter.
Oui, aussi. Oui, non, mais tu le sais. Ouais, en fait, ouais. Oui, c'est... Et en général, c'est pour le mieux.
Ouais, bien sûr. D'où l'importance. Je pense qu'on a tout essayé, je pense, sur pas mal d'années, là. Tous les formats de prod et tout, avec des conceptions plus courtes, des pré-prod plus longues, des prods plus courtes, et ainsi de suite, là. Ça fait l'accordéon dans tous les niveaux. Mais je pense que tant que t'as pas ton truc, t'as pas tes réponses, t'as pas fait tes preuve de concept, t'as pas testé de manière assez large pour être sûr que t'as la bonne variété de trucs, et voilà, et tu pars pas. Et je crois que c'est Pixar qui fait ça, hein. Pixar, ils font leur storyboard et compagnie. Eux, s'il faut rester 3 ans sur le storyboard, ils resteront 3 ans sur le storyboard, il va falloir des coupages.
Et sur l'histoire et sur tout ça.
Et voilà, c'est un peu pareil, quoi. Si tu tu transposes dans le jeu vidéo, c'est de l'interaction, c'est tout ça. Ben, tout ça, il faut le tester, il faut s'assurer que ça marche. Il faut faire du playtest, beaucoup, beaucoup de playtest en phase de conception. Le playtest, c'est pas à la fin que tu vas le faire. Hein. C'est dans ces moments-là pour t'aider à trier ce qui marche, ce qui est cool, ce qui est déclinable, intéressant. Voilà.
On pourrait se dire, pour finir là-dessus, on pourrait très bien se dire, en fait, bah, non, mais c'est bon, c'est du jeu vidéo. De toute façon, tu peux ajouter des trucs jusqu'au dernier moment. Donc, si tu as une nouvelle idée qui arrive, tu la rajouteras pendant la prod, mais c'est là
qu'Abdelak intervient.
Est-ce que c'est ça?
Il arrive du chef.
Je la garde. Il y en a qui ont essayé.
Je poserai la question. C'est intéressant que tu parles du scope. Hein. Enfin, ce qu'on entend par scope, c'est le volume des shots.
C'est l'étendue,
jeu,
ouais. L'étendue
du. Et ça. Ben souvent on se plante, hein. c'est très difficile d'être juste hein, sur le scope, d'évaluer un temps de jeu. On se dit, tiens, on va faire, ben, par exemple, sur Prince of Persia, ce qu'on estimait, je crois qu'on estimait à 11-12 heures, on est plutôt dans les 17 au niveau du main et ainsi de suite. Ça, c'est écouter un peu les devs dans toutes les boîtes, c'est toujours un peu délicat. Mais c'est vraiment important d'essayer d'être au plus juste là-dessus parce que tu vas avoir plus de qualité, vaut mieux en faire moins et de qualité, quoi, qui est allé, hein, rien de neuf sous les tropiques. Mais en tout cas, c'est avec l'expérience, tu dis, il faut vraiment arriver à scoper juste, quoi. À scoper. Donc, c'est pour ça que même très tôt en conception, c'est bien de commencer à définir le scope et à se poser des limites, mais vraiment s'y tenir derrière. Donc, c'est pas le truc de dire, un jeu de qualité, il fait jamais ça. Il se dit, il rajoute jamais jusqu'à la fin. Tu peux avoir, je parle que de Pixar, en fait.
C'est un bon modèle.
C'est énorme, ils leur donnent les 4 tickets, là. Genre, les réals, ils ont le droit de faire 4 modifications majeures, machin, ce genre de trucs. Mm-hmm. Donc, tu te dis, parce que parfois, on le sait, hein. Parfois, t'as un truc qui peut vraiment changer l'expérience. Et bon, faut pas passer à côté non plus.
C'est la chance de changer.
Carrément. Mais bon, ça, faut le faire. Faut le rationaliser. Faut le rationaliser. Si tu veux arriver à la qualité, faut le rationaliser. Et le truc qui fait la qualité aussi, c'est vraiment s'il était un temps important derrière pour polisher.
Oui, donc ça, c'est...
Mais ça, ouais. Mais ça, vraiment... Non, mais ouais. Le temps au début pour bien se trouver. Le temps à la fin pour bien polisher. Et au milieu, bon, ah, ça une semaine.
Ouais. Après, c'est vite tough. Hein,
c'est ça. Tu prépares tes ingrédients, tu prépares ta recette et tout. Tu penses bien à ta recette. Tu la cuisines super vite et à la fin, tu prends le temps de bouffer.
C'est ça, Thermomix. Ouais. En ce qui concerne le playtest, tu parlais de playtest à cette phase-là, à cette phase de conception, c'est vous qui testez ou c'est une équipe, c'est l'équipe QA ou c'est vraiment des joueurs lambda, enfin comme des bêta-testeurs?
Ouais, tout le monde, hein, tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que au jour le jour, tu fais tester, tu fais tourner dans l'équipe. Au bout d'un moment, c'est un peu biaisé quand même parce que bon, tout le monde a un niveau, tu vois, de maîtrise. Même si tu te rends pas compte, on joue un peu tous les jours. Au final, tu commences à être quand même sacrément skillé. Donc il faut aller le confronter aux autres joueurs. Donc ça peut être dans le studio ou ça peut être des gens à l'extérieur. Et dès la conception, bien entendu, avec des profils de joueurs. Et là, quand on parlait de tester, se planter et tout, c'est aussi intéressant d'aller taper dans des profils de joueurs qui ne correspondent pas forcément à l'expérience que tu as. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Parce que là, tu peux avoir des sacrées surprises et t'as le temps de réorienter le tir ou d'intégrer des choses qui pourraient correspondre.
Mais d'entendre les retours et dire « Ah bah tiens, j'ai beaucoup aimé ça. Ah oui, merde, tiens, dis donc, j'avais pas pensé, mais ça marche bien, quoi. »
Ouais, exactement.
Oui, ou l'inverse, où tu te dis « Ça, c'est génial, je suis sûr qu'ils vont adorer. » Et puis en fait, pas du tout, quoi. C'est un flop direct. Et donc, à ce moment-là, tu revois ta copie, quoi. Tu dis « Bah non. »
Est-ce que vous considérez que toute la core team doit être des bons joueurs ou est-ce que tu peux être mauvais joueur et être quand même... avoir des retours pertinents.
Moi, j'ai l'impression que c'est pas une question d'être bon ou mauvais joueur, c'est de penser aux joueurs.
Ok.
Enfin, c'est de se mettre dans la peau. Et ça, je pense que, mais tout le monde, en fait, c'est pas que la core team, en fait. Chaque personne qui travaille à un moment donné dans le jeu, quel que soit son rôle, doit essayer de se mettre à un moment donné dans la peau du joueur et de dire ok, que ça soit, je sais pas moi, un level artiste qui va construire, tu vois, les décors d'une map de jeu. Il faut qu'il essaye, en fait. Il faut qu'il voit. Il faut qu'il essaie de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'il fait. Se dire, ah, là, par exemple, est-ce que le joueur va bien comprendre qu'il faut passer par là? Est-ce que, je ne sais pas, tu vois, le chemin que j'ai construit, il est bien visible? etc., etc. Quelqu'un qui fait de l'éclairage, voilà, je parle de l'aspect artistique, mais
en c'est, animation, c'est pour, pareil.
C'est tous les sujets, tous les sujets. L'animation, tu sais très bien que c'est la même chose. Ouais.
C'était un vrai truc, tu vois. Et je pense que dans beaucoup de départements, c'est le cas. On a un podcast qui, à la base, parle de l'animation, tu vois, 3D, et on s'est toujours demandé pourquoi est-ce que c'était pas plus poreux que ça avec le JV. Et souvent, l'argument qui revenait, c'était ça, c'était qu'en fait, t'as des gens qui viennent pur artiste et qui veulent pas faire l'effort de penser gameplay et retour aux joueurs, tu vois. Et du coup, t'as des animateurs qui sont incapables quand tu leur dis, mais non, mais comment ça, j'ai une frame pour mettre un coup de poing, mais ça va pas, où est-ce que je mets mon antique, où est-ce que je mets, c'est pas possible.
Et en fait, voilà, ça t'aide à faire des choix, ça c'est important. Et puis après, les playtests, ça remet les pendules à l'heure aussi, tu vois, justement, en disant, bah ok, ça donne un feedback très clair sur ce qui marche, ce qui marche pas, etc.
Et quand est-ce que vos deux métiers commencent, du coup, quand est-ce que vous êtes forcés de vraiment interagir tous les deux, puisque du coup là on essaie de se concentrer sur le world building vraiment, à quel moment il y en a un de vous deux qui est coincé et qui dit, ah là j'ai besoin de voir ce que Chris il a fait pour pouvoir vraiment me projeter visuellement dans qu'est-ce que ça pourrait donner, et inversement où toi tu te dis bon moi c'est bon, j'ai assez de blocs et de gameplay qui fonctionne, mais j'ai besoin d'un retour, j'ai besoin d'avoir quelque chose de visuel maintenant pour me projeter un peu plus. À quel moment vous avez vraiment
gris,
les deux aspects avancent en parallèle, hein. Donc ça se nourrit l'un l'autre. Après il peut y avoir des moments de blocage où, je sais pas, il y a des choses qui sont pas encore définies sur la structure et t'as besoin d'en savoir un peu plus sur certaines spécificités de certaines areas en termes de gameplay ou je sais
certaines
pas
zones de
voilà.
jeu ouais.
Mais généralement ça se nourrit naturellement en fait, parce que t'as une sensibilité jeu, t'as une sensibilité artistique, voilà, et tout ça ça se moi j'ai autant besoin d'une image que de voir de jouer à un jeu pour me nourrir, quoi.
Et au-delà de l'inspiration, est-ce qu'il y a un truc vraiment précis à un moment donné où j'y sais, tu vas te dire vas-y je prends un screenshot de ce qu'a fait Chris et je crobarde par-dessus, ou
Souvent c'est même pas moi forcément qui vais le faire, hein. Tu vois, il y a toute une équipe artistique, hein. Moi j'ai beaucoup de relais en fait, tu vois, donc et des spécialistes de chaque domaine, donc ça être de le bel art, l'éclairage, les personnages,
oui, mais
etc.,
parce que là
etc.
on parlait de la conception, et en conception vous avez pas ces gens là
on crée quand même une team qui va commencer justement à nous aider à prototyper les choses. Si je parle de level art, donc qui est directement lié au level design, on va faire ce qu'on appelle des sample scenes, c'est-à-dire une petite scénette avec les ingrédients de tel ou tel décor, tu vois, sur un thème donné, quoi, qui va être potentiellement le point de départ d'un kit qui va aider à construire ensuite la map dans sa totalité, quoi.
Ok. Mais ça arrive un petit peu plus tard finalement. Je pense que parce que souvent on parle pendant la conception d'un prototype, du coup, c'est un peu l'étape suivante là de tout ce qu'on raconte, c'est au moment où tu commences à voir ça, il y a des briques qui se mettent ensemble et tu commences à avoir véritablement un proto, ce qu'on appelle un prototype, donc un truc qui ressemble normalement beaucoup plus au jeu. Mais même là, on est encore très loin de parce que les gens qui connaissent pas peuvent s'imaginer, tu vois, qu'il va y avoir des montagnes tout de suite, des rivières, des trucs, des machins. Bon, il y a des softs qui aujourd'hui permettent de donner des blocs de base, on va dire, mais...
Mais sur le prototypage, les protos, il y a à tous les niveaux, en fait. Hein.
Ouais, c'est...
Parce
c'est...
que tu peux avoir un prototype dont la fonction, c'est de valider, par exemple, une mécanique de jeu. Voilà. Tu dis, on veut valider, je sais pas, le shoot ou je sais pas quoi, et tu fais des prototypes autour de ça. Mais par exemple, si tu es dans un monde et tu dis, la fonction du proto, c'est... De voir comment le joueur se dirige dans ce monde-là. Donc là, tu peux dire, là, ça embarque pas que des notions, par exemple, de level design. Faut aussi commencer à mettre des points visuellement identifiables, tout ça. Donc, ça commence à intégrer des notions de visuel, de mise en scène, de lumière, tout ça. Tout ce qui va aider le joueur à se diriger. Donc, selon les prototypes, ça embarque plus ou moins de monde, différents métiers, en fait.
Qui est-ce qui, entre vous deux, se sert le plus, puisque, parler un petit peu de ça aussi, des caméras.
son cheval
c'est,
de bataille.
C'est mon champ, c'est mon champ d'action. Qui est-ce qui, entre vous deux, va plus dire, bah tiens, peut-être, est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser tel type de caméra, tel focal, tel mouvement, tel...
En parlant de la réelle pure, quoi, et de l'intégration dans le jeu vidéo, quoi.
La réelle du jeu, voilà. Mais pour mettre en valeur aussi bien le level design que les designs, enfin que la beauté des choses.
La caméra, ça, il y a plusieurs façons d'utiliser la caméra. C'est effectivement, tu peux avoir une séquence de purement narrative où le joueur à ce moment-là ne joue pas, où il n'y a pas d'interaction,
voilà,
une cinématique,
voilà,
et là on utilise un langage cinématographique, on va dire.
Ouais.
Et après, t'as la caméra effectivement du jeu. Où là effectivement c'est real time, et puis cette caméra là elle est très très dépendante en fait du format de jeu. Il se trouve que sur Prince of Persia, qui est un Metroidvania, on a un point de vue bien particulier, c'est-à-dire qu'on est vu de côté, et ça, il y a un scroll qui se fait dans toutes les directions, mais vu de côté en fait, donc on a toujours quasiment le même point de vue. Et Christophe comme moi, enfin au niveau level design ou artistique, on doit jouer avec ça. Alors donc en même temps, ça nous fait un cadre bien particulier, puisqu'on se dit, ok, l'image c'est celle-là, c'est dans ce cadre-là que je dois représenter en fait l'action du joueur, le visuel qui va, etc., dans lequel on va le plonger. Et en fait, cette caméra-là, c'est toute la finesse du truc, quoi. C'est essayer de faire en sorte qu'elle va nous servir plus qu'elle va nous empêcher de faire ce qu'on veut, quoi, en fait.
Parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans Prince of Persia, alors mis à part le jeu en lui-même, c'est vraiment les tout le côté de décor et surtout en background. Je trouve qu'il y a eu un effort qui a été fait pour avoir un background absolument dingue, et c'est pas vraiment la chose à laquelle qui est mise en avant. Parce que on est focus sur son personnage, sur les ennemis, sur le coffre à aller chercher, la plateforme à atteindre. Mais tout ce qui est derrière, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui donnait justement le côté d'atmosphère, d'ambiance, et justement de vraiment au côté artistique du jeu aussi.
On a essayé de donner même si le jeu finalement a cette représentation, s'appelle du 2.5, D. Voilà, c'est entre la 2D et la 3D. c'est de la 3D. C'est la 3D à 100%. Et donc, en fait, on essaie de jouer, même du fait qu'on ne puisse pas déplacer l'angle de vue de la caméra, on va essayer de jouer sur la profondeur. Et c'est de casser absolument ce côté justement 2D où tout est aplati, côté un peu, fourmilière, vue en tranche, vue de profil. Et donc de donner quand même des points de fuite, des éléments de décor qui sont au loin, etc. Donc content que tu apprécies ça.
Et de parallaxe.
Même dans le foreground.
Et même en premier plan. Et du coup, tu te dis, c'est pas... Je ne suis pas en train de voir un petit théâtre en 2D, mais je suis à l'intérieur d'un monde qui a vraiment son existence en 3D, quoi.
Et il y a des profondeurs différentes.
Et il y a des profondeurs.
Et les mondes dans lesquels...
Et alors, du coup, pour nous, ce qui est cool, c'est que justement, quand même, du fait que la caméra est très contrôlée et sur un axe comme ça, avec un point de vue qui est toujours le même, ça nous permet de bien composer des images et toi de décider de ce que le joueur va voir ou pas à l'écran. Comme finalement, tu crées un frame, tu vois, pour faire une illustration. Et ça nous permettait justement de nous rapprocher le plus possible des concept art qui étaient faits en amont, au niveau de la conception, en disant, voilà, on a ce cadrage-là, on sait qu'il y a cet élément-là en arrière-plan, qu'au premier plan, il y a ça, etc. Et ça, on a une maîtrise de la caméra, ce qui n'est pas forcément toujours possible dans un jeu où tu as une caméra où tu peux... Si le joueur peut diriger la caméra à 360 degrés, c'est plus toi qui contrôle la composition, tu vois.
Bien sûr.
Et là, c'est d'autres problématiques.
Ouais, ça doit être étonnant de se dire, je dois faire des concepts, mais en vrai, on ne verra peut-être jamais ça dans le jeu.
Après, dans les trucs en 3D, c'est de chercher comment tu guides le regard du joueur, comment t'amènes avec des lignes, avec des volumes, avec des espaces, tu guides le joueur vers le fameux cadrage que tu veux. Caméra, les backgrounds, les foregrounds, tout ça là, parce que effectivement il y a différents types de caméras dans différents contextes, mais un jeu, ça c'est toute une musique, c'est un rythme et tout ça, et justement il y a des moments où il faut mettre certaines choses en avant, d'autres choses en avant, pour créer de la rythmique. Et si on est dans une séquence, par exemple, de plateforme assez intense, là, la priorité, la priorité, c'est de donner de l'anticipation aux joueurs, de la lisibilité aux joueurs. Donc là, quelque part, ce qui se passe dans le fond, on s'en fout. Et ça serait justement, c'est important de rester très épuré pour qu'il y ait une très bonne lecture en fait des éléments. Mmh. Et après, tu vas arriver pour récompenser le joueur à la fin de ça. Ben là, tu arrives sur un Vista, t'as un beau background, et là, tu peux même te permettre, même si c'est un side view, reculer un peu la caméra, tout ça. Donc, c'est voilà, c'est...
petit travelling arrière.
Non, mais t'as tout le système de base de caméra qui doit répondre aux différentes actions du joueur et s'assurer que c'est clair dans ton combat, dans ta plateforme, tout ça, que t'arrives à avoir une bonne lisibilité des obstacles, des ennemis et tout ça. Et après, si tu as des séquences un peu spécifiques et qui demandent une caméra particulière, par exemple en 3D, tu peux avoir, je sais pas, par exemple, tu montes sur une tour, tu as une caméra qui va te donner un peu plus d'anticipation pour anticiper les plateformes qui viennent parce que avec le point de la forme, ça c'est caché. Et voilà, et jouer, s'assurer qu'on ne mette pas d'énergie là où c'est pas nécessaire, donc faire un très beau décor avec plein de trucs animés derrière alors que le mec il passe à 300 à l'heure et il et se concentre que... c'est le truc du focus. Vous l'avez déjà vu cette vidéo du match de basket, voilà, le mec il dit vas-y regarde le match de basket, tu dis ouais, tu vois, c'est un petit extrait, tu dis ouais, c'est cool, et après il dit t'as vu le gorille, tester un lien sur le net, et tu dis quoi, le gorille, et t'as un mec habillé en gorille qui est là au milieu qui fait le con, bon maintenant je le dis c'est fini.
Oui, mais on
et ton focus il est sur les joueurs. C'est exactement ça. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Et puis encore une fois, ça vient renforcer la lisibilité. Donc quand on a besoin de lisibilité, ça sert à rien. Donc ça, c'est tout le travail de ping-pong entre level design et level artist pour trouver le bon niveau en fait, voilà, qui va faire que ça répond à l'expérience qu'on veut donner aux joueurs à ce moment-là.
Et du coup, toi, t'es obligé, excuse-moi Doc, t'es obligé de forcément de t'emparer de la caméra quand tu fais tes premiers protos en fait, puisque tu as besoin de lisibilité, tu as pour vendre ton idée, pour que ce soit jouable.
Bah, en fait,
t'es un peu obligé de mettre des contraintes.
Ouais,
t'es obligé de...
Oui, tout à fait. Le but c'est de enfin, ça dépend du type de jeu, tout ça, blabla. Mais
ouais.
L'idée c'est quand même de se reposer au maximum sur le système de caméra de base en fait, et qu'elle réponde au maximum de situations possibles en fait, sur des anticipations de chute, tout ça, et le système de poids où elle va te montrer l'ennemi et toi elle va se décentrer légèrement. Mais tout ça c'est le système pour éviter que les level designers aient besoin de venir à chaque endroit éditer, mettre des caméras spécifiques pour répondre à une situation.
C'est là où donc, quoi, tu disais t'as besoin de quelqu'un pour t'aider en fait à coder ça,
comportement de la caméra.
D'accord, ok.
Tu as certains contextes, certaines situations, tu prends pas la matière.
Oui, mais alors, je pense que Doc, tu seras content. Je ne lance pas au milieu de l'arène, mais il m'a dit hier midi, il m'a dit mais putain, pourquoi vous ne m'interrogez pas sur les caméras? J'en connais un qui serait bien content.
Oui, c'est vachement intéressant d'en parler. Les caméras dans le jeu vidéo, c'est un putain de sujet.
Ah bah clairement, surtout que c'est le joueur qui a le contrôle.
Je vous ai parlé de Mario Galaxy. Mario Galaxy, non, c'est...
Tu veux pas interagir un truc sur Pixar?
Oui, c'est ça. Pixar, c'est le mec, il y a que deux trucs. Ah si, il y a Bubble Bobble aussi, c'est pour venir. Et non, c'est Mario Galaxy. En fait, ils voulaient... ils savent que l'accessibilité dans les jeux de plateforme en 3D, c'est très compliqué. Donc ils ont proposé une expérience, des points de vue en fait, qui essaient de faciliter... T'es quand même dans l'immersion 3D tout ça, mais ils cherchent des points de vue, t'as pas besoin de contrôler la cam et tout. Donc ils ont, je sais pas, de mémoire 43 ou 50 systèmes de caméras différents. Donc c'est un truc de malade, mais quand tu joues et tu vois la fluidité du truc, tu vois rien quoi. Là le travail, je pense que les mecs derrière, c'est des sacrés monstres,
hein. Oui, pour guider tout en n'étant pas sur des rails, mais en même temps en laissant une certaine liberté.
C'est naturel, ton flow est naturel. Tu vois, tu tournes autour de planètes, tu décolles, tu vas vers une autre et tout, enfin, c'est malade mental.
Il y a aucun moment t'as une friction quoi,
et tu dis je veux pas que la caméra, pourquoi elle a fait ça, ça nous est tous arrivé, la caméra pourquoi elle a tourné
dans les jeux 3D, tiens paf, elle
est marrant
dans le mur.
C'est marrant, tu as des contre-exemples, parce que pour toujours rester chez Nintendo, Mario Sunshine qui était avant, c'était l'horreur sur les caméras. C'était là, bon, ils ont appris. Voilà.
Ouais, puis c'était pour dire que quand on construit du coup un décor, une map comme ça, il y a justement à partir de cet ordre d'importance-là, il y a une hiérarchie qui s'établit quoi, entre un élément visuel qui est, on va dire, qui est immersif, qui est esthétique, un qui est essentiel parce qu'il crée un chemin, il oriente le joueur. On utilise même des justement, il y a un côté aussi des éléments graphiques qui sont fonctionnels, qui sont là pour justement créer un appel, pour dire attention, tu devrais peut-être regarder par là, attention là, si tu vas pas pouvoir sauter, la distance est trop haute. Peut-être vous en avez parlé avec JB, mais effectivement, essayer de penser vraiment en amont, même à partir dès les concept art, en fait, hein, en disant peut-être qu'il nous faudrait un code, un style de motif, une couleur que le joueur peut repérer, qui va lui servir de repère comme un fil d'Ariane, finalement, qui peut suivre, mais qui ne soit pas en même temps trop in your face, quoi, que ça soit bien intégré à l'environnement.
Un petit élément de background, par exemple.
Et ça peut être un élément de background, ça peut être un élément sur le chemin principal, ça peut être des tas de choses. Et puis ça, je parle que sur l'aspect visuel, évidemment, il y a sur l'audio, sur des tas de choses.
Oui, je pense que de toute façon, une bonne guidance, c'est le terme qu'on utilise, même si c'est hyper moche comme mot.
Ouais, guidance, c'est pas ouf.
C'est pas ouf. Et c'est dans un monde ouvert, on va dire, où t'es libre de naviguer comme tu le souhaites, c'est clair que c'est une accumulation de plein de petites choses qui font que c'est pas saillant, du coup le joueur c'est pas un gros trait dessiné au feutre là, et c'est ça qui est, c'est une guidance naturelle, donc ça vient, on parlait de dessins animés, tout ça, de films où effectivement t'as le cadrage, mais quand même tu guides le regard et tout ça,
même là dedans même dans un cadre,
tu guides le regard, mais dans ta
la
frame,
la lecture est hyper importante, et la lisibilité, ce que disait Christophe, c'est le truc numéro un, quoi. En termes de visuel, c'est la lisibilité. Il faut tout, justement, dans ce truc de je me mets à la place du joueur. Oui. Est-ce que le joueur va bien voir ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il va comprendre?
Et en animation, en film d'animation ou en série, c'est pareil. C'est, est-ce que c'est lisible? Donc, ça va être la caméra, l'animation, la lumière, les couleurs, les contrastes. Donc, du coup, le design derrière. Enfin, il y a tellement de choses. Donc, finalement, c'est pas si loin.
Mais oui, c'est pas si loin. Alors, on n'arrive pas très très loin de la fin de la première de l'émission centrale. Donc, maintenant qu'on on est arrivé à ce prototype, on était à peu près dans cette phase-là, on va dire. Avant de rentrer vraiment dans toute la phase production, etc., donc on a déjà abordé avec toutes les émissions précédentes, si vous deviez donner 2, 3, 4 défis centraux que vous devez régler absolument avant de rentrer dans cette phase de production, ce serait quoi ? Pour chacun de vos corps de métier, quelles sont les 3-4 briques que vous dites « Putain, ça, il faut que ce soit réglé quand même avant qu'on attaque au moins à 80% », tu vois ? Peut-être pas réglé à 100%, mais...
Voilà. Tu veux attaquer ou...
Je t'en prie.
Ils ont tous les deux fait les gros yeux. Waouh.
Alors moi, je sais pas du tout, je travaille pas dans le jeu vidéo.
Parce que ça sent la patate
chaude. Je vais parler de Pixar. Comment ils font déjà ?
Et Pixar va faire Mario Galaxy.
Tu parles du coup en pré-production, ce qu'on appelle la pré-production.
Ouais, parce que on est là du coup pour parler de la conception et qu'est-ce qui arrive au bout de cette conception finalement.
On va mixer conception et pré-production. Ouais, parce qu'il y a quand même les trois phases. Donc ce que je te disais, c'est qu'il faut surtout la partie gameplay, Mounir, tout ça, c'est s'assurer que on a prouvé. Ça marche, quoi. Prouver l'expérience qu'on veut donner, ça marche, c'est compris, c'est déclinable. C'est-à-dire que c'est intéressant, ce qu'on a à proposer, ça va être intéressant pendant des heures de jeu et on va laisser suffisamment de place aux joueurs pour s'exprimer à travers ça, et on va pouvoir proposer à travers ces systèmes, ces mécaniques de jeu, suffisamment de variété pour
éviter l'ennui,
pour éviter l'ennui, et voilà, et tout ça. Et donc ça, c'est il y a cette partie là
pour la partie gameplay,
et la partie après, monde sur plein de parties, là je parle de ça, mais sur plein de parties, sur la partie monde, c'est pareil, je veux dire, c'est le avant de partir, il faut au moins que t'aies prouvé que t'as une boucle de jeu, on va dire à mi-terme, à 3 heures, tu dis, le jeu vidéo, les jeux, c'est découpé en plein de boucles, il y en a, c'est à 2 minutes, plus ou moins longue, en fait. Et en gros, que si c'est sur un jeu d'aventure, c'est pas sur l'ouverture d'un monde, on a démontré, en fait, que à toutes les étapes de la boucle de jeu, on avait toutes ces étapes-là, et que cette boucle de jeu, peut-être faut lui donner un exemple parce que c'est peut-être trop passé. En gros, la boucle, elle fonctionne et elle est réplicable. On peut faire ça 3, 4, 5, 6 fois.
Que ce soit un monde ouvert ou un monde à niveau linéaire,
peu importe, c'est pareil. En gros, une boucle, ça comprend des objectifs clairs, des motivations, des systèmes de progression.
La guidance dont on a parlé.
La guidance, ça comprend tout ça, en fait. C'est ce qui vient tout réunir. Donc, là, la boucle, c'est l'expérience du joueur. Donc ça, mais cette boucle-là, tu dis, c'est cool, voilà, t'as 3 heures, ouais, c'est top et tout. Ben ça, il faut s'assurer que on puisse le refaire plusieurs fois et que chaque boucle soit cool, que chaque boucle elle surprenne le joueur, que
ça progresse,
à que travers ces boucles-là, t'es quand même une progression tout ça. Donc tout ça, faut avoir des réponses là-dessus. Donc t'arrives à la fin de ta conception, t'as ta boucle de jeu, voilà. Ta principale, et tu l'as éprouvé, tu l'as playtesté, et tu as tes réponses.
Et
tu
as déjà du coup un aperçu de la progression.
Bien sûr, tu connais ton système de progression, tu as vu qu'à l'échelle de la boucle, ça marche sur les motivations, sur les choix que tu laisses au joueur dans sa progression, tout ça.
Et toi, tu as des arènes dans le moteur qui sont prêtes à réutiliser et à décliner ou... En fait, tu as déjà un monde entier qui est prêt à être habillé.
Sur la boucle, en tout cas, ça intègre quand même un peu tout. C'est-à-dire que tu peux faire des prototypes qui sont très isolés. Tu dis, je vais tester des configurations de combat très différentes, tu vois, qui vont adresser, tel combinatoire d'ennemis ou des ennemis dans tel contexte avec tel modifieur.
Plusieurs phases, de la verticalité, des modifiers
temporels, spatiales, peu importe. Tu testes ça, tu as testé ta difficulté, tu sais que tu peux faire des challenges très faciles jusqu'à très très difficiles. Tout le système supporte bien ça. Tu sais que ça, après, tu vas pouvoir les distribuer. Tu vois, voilà. Peut-être que tu les as pas dans ta boucle là, mais tu en as distribué certains. Et dans ton monde, tu sais que tu as répondu à l'orientation, la guidance. Le joueur sait s'orienter là-dedans. Le joueur sait identifier des menaces, c'est identifier ce qui est bon pour lui,
des zones d'intérêt,
tout ça. Voilà, tout ça, tu sais que tu as testé, alors tu peux tester dans plein de protos séparés, mais quand tu testes ta boucle, tu réunis tout. Mais derrière, tu as plein en stock, tu as plein ce qu'on appelle des gyms, tu en as plein en stock, et tu vas pouvoir après les distribuer derrière et continuer. Et le deuxième point, hors gameplay, après j'ai parlé, c'est sur les outils. Parce que quand on parle, les outils, c'est hyper important. Il faut que tu sois, quand tu pars en tout cas en prod, tes outils soient prêts pour répondre à la cadence de la prod. Parce que la prod, c'est censé accélérer. Donc, ça veut dire que tu as éprouvé la manière dont tu vas construire des niveaux, la manière, on en parlait juste avant de venir là avec les JC, la manière dont tu vas construire ton monde.
Ce qu'on a tendance à appeler le pipeline en CG, par exemple.
Ouais, ton workflow.
Ouais, c'est ça. Ouais,
mais tes outils, tous tes outils qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite, en fait, et surtout, aller beaucoup plus vite.
Où tu réinventes pas la roue à chaque fois que tu fais un personnage.
Encore une fois, le jeu vidéo, c'est l'interactivité. Donc, l'interactivité, tant que tu testes pas, tu sais pas si ça marche. Ça, faut pas se leurrer. C'est sûr, il faut que tu testes. Donc, il faut pouvoir se tromper. Donc, pouvoir se tromper, c'est-à-dire pouvoir tester un maximum de configurations différentes. Donc, tes outils, il faut qu'ils supportent ça. Et même qu'ils supportent en prod. Parce que sinon, en prod, tu vas figer trop vite et tu risques de passer à côté de vraiment de bonnes choses, en fait. Et donc, il faut t'as encore cette place-là. Donc, il faut
tout en ayant de la varieté, du coup.
Exactement. Mais il faut que tu penses tes outils en amont pour qu'ils supportent ça. C'est-à-dire que, en minimisant, bien sûr, mais puis tu puisses itérer le plus tardivement possible. Au plus tard, tu peux itérer. Au mieux, tu as de la qualité.
C'est beau, je crois.
Ouais.
C'est bon, hein.
Oui, c'est beau.
Waouh.
Merci, Christophe. Je crois que c'est John Lasseter qui
est... Ah non, on n'a plus le droit de parler de John Lasseter.
Je suis revenu autour. Et du coup,
qu'est-ce que je pourrais rajouter? En fait,
d'un point de vue artistique, ou visuel. Et...
Quand tu arrives à la fin de. En fait, tu valides le fait que tu vas rentrer en prod. Donc, tu un certain nombre. Non pas de certitude, mais enfin d'intuition que, OK, ça, je sais où je vais, quoi. Donc, au niveau artistique, par exemple, on aura établi, tu vois, une grammaire visuelle. On sait à peu près, voilà, comment, à quoi va ressembler tel ou tel élément, comment les maps vont être à peu près construites. Après, c'est un langage, en fait. Donc, ce langage-là, finalement, il faut qu'il soit effectivement défini.
Comme une bible,
voilà, c'est une bible. C'est OK. Après, c'est des mécaniques finalement qu'on va, comme en LD, qu'on va essayer de réappliquer ensuite, de décliner. Ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis après, c'est exactement ce que disait Christophe, c'est comment on va le faire. Et c'est très important aussi. Donc, effectivement, tous les outils, les choses qui vont permettre d'itérer, de construire. C'est des choses qui vont évoluer de toute façon, qui vont aussi en prod. Hein, qui
ça
vont
continue de s'affiner. Quoi.
Voilà, qui vont s'affiner, etc., etc. Mais OK, tu as quand même une vision... relativement clair de où tu vas, quoi.
Oui, t'étais plus dans ta phase de recherche.
Voilà, t'es plus en mode flottant.
Ouais.
T'as certainement, on aura à ce moment-là, tu vois, défini à peu près toutes les zones du jeu, sont déroulées, grosso modo. Peut-être la liste de tous les ennemis, des objets, des choses, même s'il en restera encore à définir. Mais enfin, on aura une espèce d'overview de l'ensemble. On se dit, OK, on a fait un petit bout, finalement, qui nous sert de témoin et à éprouver le truc. Et maintenant, on va rentrer en prod, quoi.
Et tant
qu'on n'a pas eu cette étape-là, tant qu'elle n'a pas été validée, ça ne sert à rien d'entrer en prod, effectivement.
Là, quoi. On va scoper tout ça. On y reviendra dans le CG Beers. Je me suis gardé parce que le scope, c'est tout un sujet, je pense. Et on n'a pas beaucoup parlé de budget non plus, mais ce n'est pas plus mal. Ça laissera la place à Abdelak dans la prochaine émission pour répondre de la partie budget, etc.
Oui, il s'en fout du pognon. Bon.
Ils fabriquent, voilà, c'est des artistes.
Je savais même pas qu'il y avait un budget.
Mais c'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière. Il paraît qu'en fait.
Un but quoi. Bon, on va passer à la petite interview offset. Alors, c'est une interview que j'ai nommée OK Boomer. Oula, attention.
Ça commence bien.
Attends,
je bois un coup.
C'est de l'eau, je précise. Hein.
C'est de l'eau pour l'instant.
Pour le moment, ouais.
Alors, je petit disclaimer, attention, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos d'un boomer. Voilà, non, je précise.
Les questions sont dites comme si tu étais un vrai
boomer.
Comme
si j'étais un vrai boomer. Je vais prendre une petite voix, comme d'habitude. À mon époque, les jeux, ils étaient terminés. Il n'y avait pas de DLC, il n'y avait pas de patch Day One, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Eh ben, je suis d'accord.
Oui, c'est vrai.
Je suis d'accord.
Par rapport à votre point de vue,
mettre en cause ça.
Bah ben, oui, c'est sûr que c'est notre responsabilité d'arriver proposer un jeu qui est fini, qui est de qualité quand il sort.
Ouais. Voilà. De toute façon, c'est l'objectif. T'as raison, c'est un devoir en fait. Ouais, et Et par contre, c'est vrai que à mon époque, un jeu était fini et sa vie s'arrêtait aussi par une occasion. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de faire vivre quelque part un jeu, tu vois. Et ce qui était sur une période qui peut être très longue parfois. Hein. Il y a plein d'exemples là, aujourd'hui de jeux en ligne ou autres qui ça fait des années. Là. 10 ans en plus.
Bizarre, bonjour.
Ouais, voilà. Et je trouve ça aussi hyper intéressant, quoi.
Carrément. Voilà. Mais sur cette partie, c'est clair. Mais sur le côté profiter de la possibilité de faire des mises à jour, alors c'est bien, hein, on peut arranger des choses et tout. C'est bien quand ça te permet aussi de régler des problèmes, t'as quand même des retours de joueurs et tout, tu peux affiner l'expérience. Ça.
Ouais, oui.
Mais c'est... Alors peut-être je me trompe et tout, mais c'est quand même les boules, je trouve, si tu te dis, je viens d'acheter un jeu et j'y joue, et putain, un mois après, les mecs, ils ont changé certaines features qui rendent le jeu plus intéressant. Tu te dis, ouais, j'ai pas joué au bon moment, quoi.
Ce qui se fait beaucoup avec les Early Access aujourd'hui, par exemple.
Ah ouais, mais alors c'est différent, là.
Parce ouais, mais access, la frontière...
Early Access, tu sais, en fait.
Ouais.
La frontière est moins... Non, je trouve pas. Hein. Tu payes moins cher un Early Access pour y accéder plus tôt. Et parce que tu sais que c'est en développement et que tu vas pouvoir faire des feedbacks sur le développement.
On en reparlera dans le CGB.
Quelque part,
il y a du débat.
Quelque part, c'est un moyen de t'intégrer à ça, quoi.
Oui, bien sûr.
Alors que quand tu vas.
Disons que le contrat est clair.
Ouais, voilà. Moins. Mais bon, c'est. Voilà. Mais pour. Aujourd'hui, faire des jeux vidéo, c'est vraiment très, très compliqué. Les jeux sont très gros, c'est complexe, quoi. C'est des interactions, c'est de l'interaction dans tous les sens. Donc, tout tester, les jeux immenses, si on prend les gros bébés, là, GTA et qu'on sort, bah, t'imagines, pour tester ça, c'est un truc de fou. Donc, forcément, on est arrivé à des tailles de jeux, c'est très difficile d'arriver avec le truc nickel, parfait, zéro bug, aux petits oignons et tout ça. Donc, voilà.
Cyberpunk.
Après, c'est Cyberpunk qui est un putain de bon jeu, quoi. Et qui est sorti, parce que après, les mecs, on ne sait pas pourquoi.
Il y a d'autres paramètres qui
rentrent en ligne de compte. Mais la complexité fait que, donc c'est bien d'essayer de, de réfléchir, nous, dev, comment on peut changer notre approche. On parlait de scope tout à l'heure, tout ça, pour arriver à des choses qui sont plus... C'est-à-dire que tu arrives avec un truc plus raisonnable, mais qui est bien foutu, bien ficelé. Et effectivement, tu peux le faire évoluer derrière. Ouais.
Mais il faut que ça, le socle soit ultra solide, quoi. Ça, c'est clair et net.
Tu continues pas à designer... Enfin, changer des features core de ton jeu quand il est sorti.
D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que souvent, on associe... le scope à l'ambition. Mmh. En disant, plus le scope est grand, plus j'ai été ambitieux. Mais en fait, pour moi, tu peux vraiment décorer les deux, en fait. Tu peux être très ambitieux sur un jeu dont l'étendue va être beaucoup plus réduite, en fait.
Là, pour en savoir plus, il faudra attendre le CGB.
Oublie pas ce que tu as à dire, parce que je pense que c'est hyper important. Mais je me le note et on y revient juste après.
Bon, alors du coup, vous m'avez un peu répondu à ma deuxième, c'est « Oh, les jeux de maintenant, c'est trop compliqué, il y a plein de boutons, il faut connaître 250 combos, etc. »
Oui, mais tu sais,
jeune boomer,
il y a aussi beaucoup d'options d'accessibilité maintenant. Tu as joué à Prince of Persia ?
Oui.
Il y a plein d'options d'accessibilité.
Ouais, c'est un bon boomer.
Je pense.
Il y a le boomer. Mais en tout cas, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Mounir tout à l'heure. On regardait les gamins qui jouaient à Fortnite à la cafette. Là. Et moi, j'ai pas joué. Hein. Il me disait c'est hyper complexe tout ça, de rentrer dedans et tout. Il y a cette complexité là, mais eux, tu es boomer, tu le sais. Hein. Tu as cette capacité justement de tout assimiler et tout ça, et après d'être à l'aise avec cette complexité là, quoi. Sur pareil, c'est la manière dont, l'accessibilité, c'est un pote, Aymeric, toi, qui donnait cet exemple à un moment. C'était une voiture, c'est quand même de Game Baker. Ouais. Et une bagnole, c'est hyper compliqué quand même, une bagnole à conduire, tu vois. Mais après, on y arrive tous, quoi. Donc voilà, donc c'est la manière dont tu vas amener ça. Voilà, on va t'apprendre des choses et après, ça va devenir des automatismes et ça va devenir super accessible, alors qu'en fait, derrière, c'est hyper compliqué. Donc tout ça, c'est des questions d'accessibilité. Mais nous, notre travail de designer, c'est de faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible, la prise en main, bien entendu, elle soit la plus naturelle possible et que le joueur découvre par l'expérimentation, par son expérimentation et qu'on ne prenne pas trop par la main. Parce que ça, c'est chiant pour le coup. Voilà.
Je suis nostalgique des bandes d'arcade, pas vous ?
Si, complètement.
Pour le coup.
Pour quelle raison, en fait, en vrai ?
Bah, tu sais, je pense que c'est la petite Madeleine de Proust, quoi. En fait. Mm-hmm. La bande d'arcade, d'ailleurs, j'en ai une chez moi, mais. Mais du coup, ouais, il y avait une ambiance, une atmosphère, comme on disait tout à l'heure, quand on se rappelait nos souvenirs, qu'est-ce qui nous attirait là-dedans. Bah, moi, je me rappelle, voilà, j'étais gamin, j'allais dans des fêtes foraines, ou tu sais, des fêtes de village, où t'avais le camion qui arrivait avec toutes les bornes, soit dans des salles de jeu.
Salles d'arcade.
Voilà, et salles d'arcade à Montpellier, en l'occurrence. Et il y a une atmosphère, il y a, enfin, une odeur, tu vois, tu sais, ça sent les circuits, tu vois, mélangés avec la fumée de cigarette, c'est génial. Et la bière renversée, enfin, tu vois, il y a tout ça. Le son, enfin. Voilà, donc moi c'est des souvenirs qui te marquent. Les premiers jeux, je pense, auxquels j'ai joué, jeux vidéo, c'était sur une borne d'arcade. J'allais, je me souviens, c'était ma sœur, moi j'avais m'amener, c'est ma grande sœur, et moi je montais sur un tabouret, tu vois, pour jouer à Space Invader. Et voilà, et ça te marque, voilà. Et donc oui, nostalgique de ça. Enfin, nostalgique, c'est pas une nostalgie, c'est juste un.
Si, c'est une nostalgie.
Une nostalgie.
Tout pareil, il y a quand même une nostalgie parce que, comme tu dis, il y a le côté, il y a le contexte, en fait. Le contexte de la salle, tout le monde joue. Puis c'était, en fait, il y a les nouveautés qui arrivaient. T'arrivais là et tu prenais des putains de claques sur claques.
Ah, ils ont reçu ça.
Truc, quoi. Et tu voyais l'évolution, en fait, aussi, technologique. C'était quand même vachement avancé et tout. Et puis c'était des trucs de fou. Et ouais, c'est une atmosphère qui était. Forcément, les trucs qui te marquent quand t'es jeune, ça, c'est ce qui te construit aussi, qui nous a amené aux jeux vidéo. Donc forcément.
C'est un peu manque. Comme le cinéma aussi, tu vois. Il y a une période, en fait, aussi où c'était là que tu voyais les meilleurs trucs. T'avais pas chez toi des consoles qui étaient capables de faire des dingueries comme aujourd'hui.
Et le cinéma, c'est un peu pareil. Il y a eu une phase où, à un moment donné, si tu voulais voir des effets spéciaux et une image de zinzin et du son Atmos, il fallait que tu ailles en salle. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de choses qui se rapprochent de plus en plus en termes de home cinéma ou de matériel son et image qui en fait réduisent aussi cet intérêt entre guillemets techno. Là, je rebondis sur ce que tu dis, tu vois, sur ce truc de, il y avait un attrait de dire putain, mais t'as entendu la nouvelle borne qui est arrivée, tu vois, le truc de fou. Alors qu'aujourd'hui,
et
bon,
l'attrait social aussi.
Le nouveau jeu qui vient de sortir, il est sur Steam et puis voilà, tu le prends sur ton PC, c'est parti. Mais par contre, le côté social, bah ouais.
Bah, tu peux transposer ça dans plein d'autres domaines.
Exactement.
Les disques.
Ouais.
Ça fait combien de temps que t'as pas acheté un disque?
Ah bon, oui, là, ça commence à faire, ouais.
Bon, voilà. Sauf si t'es effectivement, je sais pas, tu collectionnes les vinyles ou un truc comme ça. Est-ce qu'il, voilà. Mais sinon, voilà, il y avait ce truc-là. Tu vas chez le disquaire et puis, tiens, il y a cette nouveauté qui est arrivée. Tac, le vidéoclub. Bon.
Alors, on est bien dans une discussion
de boomer. On est dans Boomerland, tu vois, c'est vraiment, là, on y est.
Là, ouais, c'est sûr. Les mecs qui jouent à Fortnite en bas, là, ils seraient bien en train de se foutre de notre gueule.
Bon, on va s'arrêter là. Je vais en garder un petit peu sous le coude. J'en ai encore deux pour le CG Beers.
Okay,
donc,
très bien.
Si vous voulez écouter le reste de cette interview offset OK Boomer, ou et puis si vous voulez continuer à écouter JC et Christophe nous parler de tout ça, de la conception, de le design du jeu, eh ben, vous n'avez qu'à être Patreon bipède.
À partir de 1 euro par émission, 1 euro, c'est que dalle.
C'est même pas le prix d'un café.
Ah, même pas.
Si, alors,
bon,
si,
plus
ça
maintenant.
Va être le prix d'un café dans un petit bled.
Ouais.
Pour le mid, ça va être le niveau mid, c'est quoi? C'est un café.
C'est un café avec
un
en
café
plus
dans une bonne,
la petite sucrète.
Dans une ville un peu importante.
Voilà.
Et puis le dernier, c'est un café.
Un Starbucks.
Dans la banlieue. Ouais,
Starbucks.
C'est un Starbucks, c'est banlieue parisienne. Voilà. On n'a pas encore fait le niveau Paris de Mago.
Champs-Élysées.
On va peut-être faire niveau de Mago
avec
15 balles ou 40 balles le kawa. Bref, merci infiniment.
Merci les gars.
Et Christophe.
Merci.
De nous avoir parlé
ouais,
de
beaucoup.
Vos métiers. Et puis on va continuer avec le.
Le CG Beers, effectivement. Et voilà, merci encore. Votre émission sera certainement complémentaire de celle de la semaine prochaine, du mois prochain pour nos auditeurs, évidemment. Donc merci encore d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci. Merci. Merci, gros bisous les bipèdes.
Ciao les bipèdes.